voilà pour 30 minutes d'émission avec Parole de vie. Parole de vie, c'est quoi? C'est la rencontre avec nos passeurs de mémoire. Toutes ces personnes qui ont déjà vécu ce que l'on vit aujourd'hui, qui ont ressenti hier ce que l'on ressent aujourd'hui. Histoire de nous rappeler que l'on n'a, au bout du compte, rien inventé. Les histoires d'amour, de solidarité, de partage, d'émotion et la folie des passions a toujours habillé l'être humain. Parole de vie, c'est un travail de Honda Pays réalisé à l'automne 2021 en étroite collaboration avec le personnel de l'hôpital de Bédarieux. C'est en leur tendant le micro que nos passeurs de mémoire ravivent leurs passions et nous les font partager. Cette émission est présentée et réalisée par Sarah Fernandez et Thierry Rioux. Un rendez-vous plein d'émotions. C'est notre toute première rencontre avec Parole de vie. Pour la première émission, on reçoit Ginette Couder, bien connue à l'UNAS et qui se dévoile. Avec elle, on va parler radio, émetteur. On vous laisse la découvrir dans cette première partie. Alors, Madame Couder, Madame Ginette Couder, vous nous parliez hors antenne d'un magnétophone à fil.
C'est ça.
Avant même la sortie des magnétophones.
Des magnétophones normaux.
Et donc, vous me parliez de cette passion-là qui à la base, est sûrement celle de Monsieur Lucien Couder.
Oui, c'est ça. C'était mon mari. On a vécu 73 ans ensemble. Il est mort le mois dernier.
Et vous vous êtes rencontrés comment?
Nous sommes rencontrés, je suis de Metz, mais mon mari est de l'UNAS. Et j'avais un cousin qui habitait l'UNAS, qui travaillait à la sous-station de Joncel. C'était les trains, quoi. Et un jour, il vient à Metz et il me dit, je te prends. Mais je suis venue et j'ai rencontré mon mari. Et on s'est mariés 2 ans après.
Vous venez de la mer.
C'est ça, de l'étang.
De l'étang, plus précisément.
De l'étang.
Et vous êtes venu vous installer donc dans l'arrière-pays.
Mais mon mari était déjà installé. C'est-à-dire qu'il a fait des études par correspondance. Il a des livres, il faut aller chercher ces livres. Je me rappelle qu'il y avait un livre qui s'appelait La radio, mais c'est très simple.
Donc il était dans la communication, dans la télécommunication.
Oui, oui. Mais c'était autodidacte, disons. Il aimait ça et puis c'était sa passion. Il avait un petit magasin, c'était un atelier plutôt. Comment on est attiré, c'est l'instinct. C'est l'instinct. Et lui aussi, puisqu'il avait 7 ans depuis que moi, et on ne sait plus de suite. Ça ne s'explique pas, ceci. J'avais 6 ans et demi, et mon mari en avait 23. Et déjà, il avait monté ce petit magasin. Et il faisait des installations électriques parce que l'UNAS, il n'y avait pas le courant encore. Et puis, mon mari faisait des installations électriques dans les maisons. Il mettait les gens autrefois s'éclairaient avec des bougies ou des lampes à pétrole. Il a commencé comme ça. Et voilà. Et puis. Ça a évolué, il y a eu la radio, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient la radio. Il a commencé à vendre des postes radio, et petit à petit, c'est venu.
Donc il a amené les premières radios, les premiers postes télé par la suite.
Par la suite, mais on a attendu. En 1956, on a fait le premier relais en 1956. Parce que Marseille a fait un émetteur qui s'appelait l'Étoile. C'est certainement une colline qui s'appelait l'Étoile, Marseille. Et on a essayé de prendre seulement la Lunas comme c'est un trou. C'est le cas de le dire. Il a fallu monter sur les montagnes environnantes pour capter, d'ailleurs, Marseille. Et c'est ce qu'on a fait. Et petit à petit, c'est venu. Mais heureusement qu'on avait un monsieur, qui était de Bellarieux. Et il était haut placé à l'ORTF. Ça s'appelait l'ORTF. Et il nous a bien aidés. Mais quand on a fait le premier relais, de Marseille jusqu'au Bousquet d'Or, il est venu tout un tas de personnes pour voir si c'est conforme aux normes de la télévision. Et puis, si on ne brouillait pas les émetteurs à côté. Hein. Mais pour faire ces essais, on partait sur les montagnes. Hein. Je me rappelle qu'on montait à pied automatiquement. C'était pas haut, mais après, une fois, Marie est tombée. Il descendait. C'était donc assez. Descendait assez. Il s'est arrêté à une branche d'arbre pour s'arrêter carrément. Et moi, qui étais derrière lui, je descendais aussi et je suis tombée. Et j'ai mis le pied sur un serpent. C'était épique. Hein.
Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de l'ange du paradis. J'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde. Lorsqu'à mon bras, maman, tu m'étomberas. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Je suis malgré mon âge, le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'on m'aimait sans de rêve, mais les rêves s'achèvent et toi seul. Mais restée, c'est toi, maman, la plus belle du monde. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, maman, toi, tu es
Vous écoutez Radio Onda Pays, la radio des Hauts-Cantons, et c'est l'émission Parole de vie.
Et cette idée de comment on fait concrètement quand on est à l'UNAS, on grandit à l'UNAS, on vit à l'UNAS, d'un coup d'avoir cette envie déjà de...
Pour mon mari, ça a été... Il était né pour ça, disons.
C'est une vraie passion.
Ah oui, absolument.
Et vous avez embrassé la passion aussi.
Absolument.
C'est devenu un petit peu la vôtre, peut-être.
Ah oui, ben oui, parce que c'était intéressant. C'était intéressant, ça commençait, la télé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour les gens qui étaient...
Ah, c'est une forme de une petite révolution.
C'est ça, c'est ça. Un jour, on faisait des essais sur la route de Entravennes et le Bousquet. Et puis, on avait installé tout un tas de matériel. Et il y a un vieil homme, qui tourne autour de nous. Et il dit à mon mari, où alors sont les bobines? Mon mari m'a dit, quelle bobine? Il croyait que c'était le cinéma ambulant.
Et oui, justement, quelle a été la réaction des habitants du coin quand ils ont
vu... Ils étaient interloqués.
Je vous jure.
C'était une révolution. Et quand on a fait le relais, on a vendu tout un tas de téléviseurs. On a vendu. Et seulement, il fallait que le relais soit apte aux normes de la télévision. On a fait venir un poste Schneider. Mais alors, il y avait les longues distances, les moyennes distances, les courtes distances sur le téléviseur, c'est ça. Alors, nous, on faisait les longues distances.
Il y avait combien de chaînes? Une.
Une, ça nous passait. Il n'y en avait qu'une. C'était agréable.
Et également, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous sonorisiez ensemble les fêtes de village.
Ah oui, oui. On avait fait venir du matériel de chez Bouillet, des haut-parleurs. Et puis on avait aussi d'autres haut-parleurs. Bouillet faisait que des haut-parleurs pour les bars, vous voyez. Tandis que mon mari avait fabriqué avec des anciens haut-parleurs de postes, d'anciens postes radio. Parce que comme musicalité, c'était bien plus agréable. Mais remarquez que dans les villes, c'était pas pareil. Dans les villes, je crois qu'ils étaient plus, comment dirais-je, équipés que nous. C'est vrai, on faisait des balles. Jusqu'à 2h du matin, au Bousquet, il y avait et la verrerie à l'époque et la mine. Alors il y avait du monde. Puis la verrerie a fermé, évidemment, mais on faisait des fêtes. Hein. Et puis la Sainte-Barbe. Hein. La Sainte-Barbe, c'est la fête des mineurs. C'est le 4 décembre, c'est pour Sainte-Barbe. C'est la patronne des pompiers, je crois, Sainte-Barbe. Hein. Et en même temps, des mineurs. Alors on faisait 3 ou 4 jours de fête pour la Sainte-Barbe. Des lotos, entre cafés. Oui. Et les orchestres, quelquefois, venaient avec leur sonorisation, quelquefois, ils venaient sans sonorisation, et c'est mon mari qui faisait les sonorisations. Et je l'ai dit, pour installer tout ça, c'était pas évident.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue, alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Ouais, et c'était bien, et c'était bien, et c'était bien.
Quand on a 20 ans, vous savez, c'était pas...
Justement, on est dans quelle année, là, à peu près?
Alors, au début qu'on s'est mariés, on était en 48. Les premiers bals, on les a fait à peu près en 1950. Et la télévision, en 56, quand Marseille a commencé, a eu le relais. Et alors, comme... Là, il y a eu le barrage d'Avesnes. Il y a des gens d'Avesnes qui sont venus habiter au Bousquet et à Avesnes. Ils voulaient la télévision à Marseille, déjà ils l'avaient. Ils étaient de Marseille quand ils ont fait ce qu'ils faisaient, le barrage, les ouvriers, quoi. Et c'est pour ça qu'on a fait le relais. C'était du travail, mais on se régalait parce que moi j'adore la musique. C'est la moitié de ma vie. Quand j'étais jeune, on n'avait pas trop d'argent pour me payer les...
Et qu'est-ce qu'on écoutait dans ces premières émissions radio?
Oh, mais les chansons de la guerre. Hein. Et de Tino Rossi, Les premières chansons de Tino Rossi. Mais Tino Rossi a pris le relais de Maurice Chevalier. Et c'est vrai qu'il chantait bien. Et puis il était... connu parce que il allait dans les théâtres à Paris, tout ça.
Mmh. et tout est merveilleux. Maria, tu es ma douceur, tu es mon espoir, tu es ma joie et mon bonheur. Maria, la nuit peut venir, je sais que mon rêve me dira ton souvenir. Maria, nous ferons tous deux jusqu'au jour le plus beau des rêves d'amour. Il est des soirs qui semblent gris, il est des jours qui semblent lourds, moroses, chargés d'ennui. Mais tu viens vers moi doucement, je sens ton regard caressant, tout change et tout sourit. Maria, quand je vois pour moi la vie est plus belle et tout est merveilleux. Maria, tu es ma douceur, tu es mon espoir, tu es ma joie et mon bonheur. Maria, la nuit peut venir, je sais que mon rêve me dira ton souvenir. Maria, nous ferons tous deux jusqu'au jour le plus beau des rêves.
Vous aimiez danser?
Oui, je n'en ratais pas une. Hein.
C'est vrai? Jusqu'à 2h du matin?
Et mon mari ne savait pas faire un pas devant l'autre. Jusqu'à 2h du matin, je dansais. Et voilà.
Et on se quitte avec un extrait de la méditation de Thaïs, un extrait qui a été choisi par Ginette Couder, notre invitée pour l'émission Parole de vie, qui est réalisée, présentée par Sarah Fernandez. Et Thierry Rioux pour Onda Païs. On se retrouve la semaine prochaine.